Le journal Nazaire Coco.
Des nouveaux affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les hommes de l'ex-général Laurent Kunda sont signalés depuis ce matin à Mushaki, Biambwe, Matanda et Katale, à plus de 40 km à l'ouest de Goma. Des combats qui ont lieu alors que le général déchu Laurent Kunda réclame un cessez-le-feu. Une dizaine d'ONG locales et internationales en Ituri sollicitent la suppression des taxes pour l'embarquement de leur personnel et fret, refus du commandant de la RVA pour qui d'autres exonérations leur ont déjà été accordées. Toujours pas de plénière à l'Assemblée provinciale de Bandundu. Trois semaines après la rentrée parlementaire, les députés provinciaux s'impatientent. Mesdames et messieurs, bonjour. Honore qui vous des nouveaux affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les hommes de l'ex-général Laurent Kunda sont signalés depuis ce matin à Mushaki, Biambwe, Matanda et Katale, à plus de 40 km à l'ouest de Goma, en territoire de Masisi. D'autres combats se déroulent à Runyoni, à 90 km au nord-est de Goma, dans les territoires de Rutshuru. Des combats qui ont lieu alors que le général déchu Laurent Kunda réclame un cessez-le-feu et s'est dit désormais favorable au brassage des militaires qui lui obéissent encore. Reportage Radio Kapi Goma.
Les combats dans la localité de Mushaki ont éclaté la nuit dernière vers 23h avant de s'intensifier ce matin vers 4h locales, vers Biambwe, Matanda, Katale sur la route de Masisi Centre dans le territoire de Masisi, a déclaré le colonel Delphin Kaimbi, commandant adjoint chargé des opérations à la 8e région militaire. Un responsable militaire des FARDC, joint au téléphone sur place, déclare qu'il s'agit de combats violents entre les FARDC et des insurgés. D'autres affrontements sont notamment signalés à Katiru, Mweso, Buranda, au-delà de Kichanga, à une centaine de kilomètres à l'ouest de Goma, toujours dans le territoire de Masisi, mais aussi à Runyoni, sur la route de Bunagana, dans le même territoire de Masisi, toujours selon le colonel Kayimbi. Contacté, le général déchu Laurent Kunda dit pourtant avoir demandé aux autorités congolaises un cessez-le-feu dans les hostilités. Selon lui, c'est surtout pour permettre aux humanitaires d'avoir accès aux déplacés, qui sont très nombreux, dit-il, notamment à Kichanga, son fief. Laurent Kunda se dit également favorable pour amener ses troupes au brassage. Pour la 8e région militaire, les FARDC ne font que se défendre face aux provocations des insurgés. Kunda a unilatéralement déclaré la guerre à travers des médias internationaux, déclare le colonel Kayimbi, qui en veut pour preuve le fait que Kunda n'a pas pu fournir à la MONUC, comme promis, les 500 soldats qui devaient faire partie du premier lot de ses troupes attendues pour le brassage. C'est hier mercredi, en effet, que la MONUC a effectivement démonté le camp de transit installé depuis le 4 octobre dernier à Mushaki et qui devait accueillir les 10 soldats. Goma, Radio Kapi.
La participation des femmes congolaises aux dernières élections en RDC au centre d'un partage d'expérience entre une délégation venue d'Haïti en mission en ce moment à Bukavu et les femmes leaders du Sud Kivu. Cet échange est initié par les sections genre de la MINISTA, mission de l'ONU en Haïti, et la MONUC, mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. On sait que lors des dernières élections, peu de femmes avaient été élues en RDC alors qu'un nombre important avait postulé. Pour que les femmes congolaises réussissent, un membre de la société civile de Haïti estime que les Congolaises doivent persévérer même après la perte de leur électorat. On écoute Wifine Labbé au micro de Charlotte Ngungi-Selemani.
Nous sommes victimes d'une culture, nous vivons une sorte de marginalisation, mais nous savons très bien qu'un pays ne peut aller de l'avant avec sans avoir la participation des femmes. Nous avons été aux élections, ça n'a pas été vraiment bien parce que nous n'avons pas vraiment les expériences qu'il faut pour pouvoir vraiment accéder au poste désiré, mais quand même ça a été pour nous une expérience. Alors nous voulons continuer, même lorsque nous n'avons pas réussi. Ici, nous avons eu des expériences sur le terrain après les élections. Nous pensons que nous n'allons pas subsister. Heureusement, nous avons pu réaliser de grands projets avec Gender. Voilà pourquoi que nous sommes venus ici pour pouvoir partager avec les femmes.
Signature ce matin au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères à Kinshasa d'un protocole d'accord entre le gouvernement congolais et l'UNESCO. Ce protocole intitulé « Plan d'opération » a été signé en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel qui en est le bénéficiaire, de la vice-ministre des Congolais de l'étranger et de l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo. Ledit protocole a été financé par le gouvernement italien en vue de la formation des nombres supplémentaires d'inspecteurs de l'enseignement dans le but d'améliorer le système éducatif congolais. On écoute Boubacar Diarra au micro d'Agathe Mpona.
Aujourd'hui, nous nous retrouvons, grâce au financement de la coopération italienne, pour signer le plan d'opération relatif au projet de formation de 1000 autres inspecteurs. Mesdames et messieurs, selon les chiffres dont nous disposons, l'inspection générale de l'EPSP totalise actuellement environ 5000 inspecteurs, alors qu'il en faudrait au moins le double pour couvrir le besoin du pays. Sur ces 5000 inspecteurs, près de la moitié n'a pas bénéficié de formation technique appropriée. La contribution de l'Italie, d'un montant de 642 444 $, permettra d'augmenter sensiblement le nombre d'inspecteurs qualifiés.
Boubacar Diarra, représentant de l'UNESCO en République démocratique du Congo, au micro de Agathe Mpona. Une vingtaine de personnes sont arrêtées par l'auditorat militaire supérieur de Mbujimayi depuis une semaine. Parmi ces arrêtés figurent les policiers de la garde minière, les militaires et 16 gardes miniers de la MIBA, société minière de Bakwanga. Elles sont arrêtées après le meurtre d'un policier au polygone de la MIBA Esther Ndalafina.
Les gardes miniers de la MIBA dorment en prison depuis ce lundi. L'auditorat militaire supérieur qui les a interpellés les accuse d'avoir incité les militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline militaire, au vol des biens de la MIBA et les accuse également d'être impliqués dans le meurtre d'un policier de garde en date du 1er octobre. Ces arrestations semblent aujourd'hui créer un début de polémique. Actuellement, la MIBA déplore que l'auditorat militaire se soit accaparé dans la nuit du dossier en instruction alors qu'elle venait juste de déclencher une enquête interne. Récupérés par cette instance militaire supérieure, ces agents affirment avoir passé 2 jours de calvaire avant d'être déférés en prison où ils subissent encore des mauvais traitements. Cette situation est confirmée par la section des droits de l'homme de la MONUC. Pour sa part, la délégation syndicale s'insurge contre cette arrestation qu'elle qualifie d'arbitraire. Selon elle, la MIBA étant l'employeur, devait entendre et procéder aux sanctions en cas de bévue. Côté MIBA, le secrétaire général de l'entreprise dit avoir mené des démarches sans succès. Mbujimayi, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
La société Motogold Mine a suspendu l'exécution de ses projets de développement dans les territoires de Ouacha, à environ 800 km au nord-est de Kisangani. Nous sommes en province orientale. C'est son directeur général qui l'a annoncé hier à Radio Okapi. Parmi les travaux suspendus, la construction de la route Arudoko, longue de 250 km, ainsi que la réhabilitation de plusieurs infrastructures de base. Motogold Mine a dressé à ce sujet, un mémorandum explicatif à l'Assemblée provinciale. L'entreprise minière justifie sa décision par la non-consolidation par l'État congolais des contrats miniers. Louis Watum, le directeur général de Motogold, l'a dit au téléphone de José de Chartomenga.
Certaines activités telles que la route que nous faisons entre Arou et Ouacha, nous avons suspendu cela au moment où je vous parle. Nous avons aussi suspendu beaucoup de travaux communautaires que nous faisions sur place. Nous avons maintenu un minimum, cependant. Il y a certaines réfections des bâtiments, des édifices, d'infrastructures publiques, par exemple au niveau de Ouacha, qui étaient prévues. Certains étaient en cours d'exécution. Tout cela a été suspendu. Le programme pour la malaria et pour la lutte contre le sida vont être réduits dans une certaine mesure. Les difficultés, ce sont le manque de visibilité pour l'évolution du projet, parce que cela fait bientôt 1 an et demi, presque 2 ans, que notre dossier est sur la table de révisitation. Et jusqu'aujourd'hui, nous attendons toujours d'être sur l'évolution des négociations pour finaliser, en fait, la création d'une structure de joint venture qui va permettre à Borga King, Motogold et Kilomoto de se mettre ensemble, de travailler, de faire de l'exploitation.
Motogold Mine est une société privée composée majoritairement de capitaux canadiens. Elle a obtenu d'exploiter de l'or dans la concession 38 appartenant à l'entreprise d'État Office des Mines d'Or de Kilomoto, Otimo, dans les territoires de Ouacha. Son volume d'investissement dans ce secteur s'élève à 500 millions de dollars américains, a ajouté l'administrateur directeur général. Au Kassai occidental, les opérateurs économiques de l'axe Ilebo-Kananga se plaignent du retard dans l'acheminement de leurs marchandises par la Société nationale des chemins de fer du Congo. Plus de 3400 tonnes de produits agricoles stockés dans les différentes gares de la SNCC attendent depuis 4 mois d'être acheminées à Kananga. De son côté, la SNCC annonce la descente dans quelques jours des locomotives pour l'évacuation de ces wagons. Piro et la Meji.
Dilebo à Kananga, en passant par Kinda, Moïka, Kakenye, Bakwankenga et Demba, les plaintes sont les mêmes. Du maïs, du manioc et de l'huile de palme attendent depuis plusieurs mois dans les installations de la SNCC. Jean-Pierre Milambo, président des opérateurs économiques à Ilebo, craint que la marchandise ne pourrisse.
Il faut encore 3 mois pour l'exploitation de ces wagons, faute des locomotives. Sur place, il est beau, on est dans plus de 87 wagons, le temps d'être tracté à Menaditu et à Kananga. Dès que les wagons tractés arrivaient à Kananga, vous ouvrez les wagons, vous trouvez que tous les produits qu'ils avaient chargés là-bas sont décomposés, c'est-à-dire vous perdez tout ce qu'ils avaient mis comme capital dans cette marchandise.
Cette situation inquiète les ONG de défense des droits de l'homme qui accusent la SNCC de geler l'évacuation des produits agricoles, ce qui occasionne la rareté sur le marché avec spéculation des prix, d'où l'appel de l'Observatoire congolais des droits de l'homme envers le gouvernement pour décanter la situation. Radio Okapi a contacté le directeur de la région nord de la SNCC, Alfred Nato Nieskia, appelle les opérateurs économiques au calme. Il attribue ce retard aux pannes des locomotives et la vétusté du matériel. Il fait également savoir qu'une solution a été trouvée avec la direction générale pour affecter 3 locomotives entre Ilebo et Kananga. Kananga, Piero et Lameji, Radio Okapi.
En Ituri, une dizaine d'ONG nationales et internationales humanitaires sollicitent d'être dispensées de toutes taxes, droits et redevances pour l'embarquement de leur personnel et des frais dans les vols nationaux et internationaux. Il y a 3 semaines, ces ONG avaient soumis dans une lettre leurs préoccupations au ministre des Transports du gouvernement central, demande restée sans suite. Les ONG ont alors saisi depuis mardi dernier le commandant de l'aéroport de Bounia. Jean-Charles Delphin Dupin, responsable du bureau de Ocha à Ituri, explique le bien fondé de leur démarche.
Il y a des accords, des protocoles qui sont signés entre des ministères et les organisations humanitaires. Et dans ces protocoles, il est stipulé que le gouvernement est là pour faciliter le travail des organisations humanitaires. Si nous prélevons des charges, que ce soit des redevances, que ce soit des taxes, eh bien, tout cela, ce sont des sommes qui sont en moins pour l'assistance humanitaire. Quelque part, les bailleurs de fonds, qui donnent déjà beaucoup ici en RDC, comptent justement sur la diligence du gouvernement pour éviter de surcharger encore les fonds qui sont demandés par les organisations humanitaires.
Jean-Charles Dupin, responsable du bureau de Ocha à Ituri. De son côté, le commandant de la régie des voies aériennes à Bounia indique que les ONG humanitaires sont déjà exemptées de plusieurs taxes de l'État. Selon Nestor Fumwangani, il sera exagéré de solliciter que la mesure d'exemption s'élargisse aux redevances perçues par la régie des voies aériennes.
Demander et d'être exempté pour les redevances, nous pensons que c'est trop demandé parce que une redevance n'est pas une taxe en ce qui concerne la RVS. C'est un paiement d'un service rendu quand on sait que ceux qui donnent l'aide pour leur projet prévoient dans leur budget les frais de transport aérien. Nous ne voyons pas pourquoi on doit maintenant demander à être exempté de ces frais-là. Contenir des accords cadres et protocoles d'accords signés en 2001 qui sont actuellement déphasés parce qu'à cette période-là, on était dans l'urgence. L'État a besoin d'argent pour construire ce pays quand on veut aider le gouvernement et quand celui-ci donne certaines facilités, on ne doit pas trop pousser le gouvernement à ne rien avoir. Je pense qu'à ce moment-là, on n'aide pas le gouvernement, mais on est en train de l'étouffer et le pays va toujours dépendre des autres.
Les représentants des ONG sollicitant cette exonération des taxes se réunissent depuis ce matin au bureau de Ocha à Bounia pour adopter une position commune par rapport à la réaction de la RVA. Le dossier est réalisé par Chadala Chabani. 23 jours après la rentrée parlementaire de septembre, toujours pas de plénière à l'Assemblée provinciale de Bandundu. Les députés revenus des vacances s'impatientent. Cette situation inquiète également l'exécutif provincial qui attend les édits et autres rapports des vacances des députés pour accélérer son travail. Basile Bakoumbane.
Il avait fallu près d'une semaine de tractation pour ouvrir officiellement la session de septembre à l'Assemblée provinciale du Bandundu. L'absence des députés sur la ville et l'exigence des arriérés de 5 mois des émoluments étaient de raisons avancées pour justifier ce report. Curieusement, depuis cette ouverture, le 21 septembre dernier, rien ne s'est fait toujours. Et pourtant, les nombreux députés qui traînaient dans leur circonscription électorale ont déjà regagné la ville. Cela grâce à l'exécutif provincial qui avait débloqué 50 millions de francs congolais pour les encourager à reprendre. Cette situation inquiète le membre du gouvernement provincial qui attendent les édits et autres lois pour accélérer leur travail. Roger Kokopembe, ministre provincial de l'Environnement, s'est dit préjudicié par ce retard, étant donné qu'il attend des édits pour lancer les recouvrements de recettes dont la province a besoin pour son fonctionnement. Un avis que partagent les autres membres de l'exécutif. Contacté à ce propos, Guy Moussomo, président de l'Assemblée provinciale, rassure que tout va commencer dès la semaine prochaine. Pour lui donc, les signes de bonne foi de l'exécutif provincial en leur faveur et les 2 mois des émoluments disponibilisés par le gouvernement central suffisent déjà pour commencer et aller à grande vitesse. Il promet de convoquer la conférence de présidents de ce week-end afin de planifier le plénière. De Bandunduville, Basile Bakumbane, Radio Okapi.
Il est 12h40, Milundo Kitambala dans le Bandundu, fin de cette édition d'information. Okay.